2018, et on a pu côtoyer des hommes et des femmes de Dieu extraordinaires qui nous ont marqués, impactés. On est toujours content d'être là. Mais quand on est parti en 2018, le Seigneur avait d'autres plans, d'autres projets pour nous. Et puis, je vais vous parler de ça ce matin. J'aimerais vous présenter un ministère que Nathalie et moi, on a démarré, qui s'appelle, comme c'est écrit à l'écran, Auberge, le repos du berger. C'est un ministère pour prendre soin des couples pastoraux du Québec, donc des pasteurs et de leurs épouses. Quand je dis pasteur, ça veut dire ancien aussi, là. Donc, tous les gens impliqués dans le ministère à temps plein. Mais ce que je vais vous présenter, je vais le faire à travers une prédication de la parole de Dieu qui s'adresse quand même à tout le monde. Parce que le titre, c'est « Apprendre à se reposer dans le Seigneur ». Et ça, il n'y a pas juste les pasteurs qui ont besoin d'apprendre, et les anciens qui ont besoin d'apprendre à se reposer dans le Seigneur. Tous les enfants de Dieu ont besoin de le faire. Et des fois, on pense qu'on n'en a pas besoin, mais c'est là qu'on en a plus le besoin. Donc, c'est à travers une prédication sur Marc 6, si vous voulez tourner dans Marc 6. À travers la prédication, je vais parler à tout le monde, mais je vais aussi, de temps en temps, parler du ministère de l'auberge. Donc, ce ne sera pas juste une présentation missionnaire, ça va se faire à travers une exposition d'un texte de la parole de Dieu. Mais tout d'abord, je vais commencer par vous raconter une tranche de vie personnelle. Et ce n'est pas pour attirer l'attention sur moi, pas du tout. Je vais le faire parce que je vais vous mettre en contexte de ce dont je vais vous parler ce matin. Et pourquoi on en est rendu là. Donc, il y a quelques années, j'ai fait un burn-out, une dépression aussi, à cause d'une situation extrêmement difficile qui m'a totalement épuisé. J'étais épuisé physiquement, bien sûr, mais moralement et spirituellement aussi. Vous savez, quand on est épuisé physiquement, on peut prendre quelques jours de vacances, une semaine de vacances, deux semaines de vacances, puis généralement, ça passe. Notre corps peut s'en remettre. Mais quand on est épuisé moralement ou spirituellement, vous savez, quand ça ne va pas bien dans notre âme, dans notre cœur, quand on perd nos repères, quand dans notre tête tout déraille, là, ben là, c'est une toute autre histoire parce qu'on sait rarement quoi faire pour s'en sortir. Et c'était mon cas à l'époque. À cause de plusieurs années de conflits dans l'église où j'étais, ça m'a complètement jeté à terre et ma plus grande lacune a été de ne pas avoir su comment réellement me reposer en Jésus. Comment me décharger sur lui de tous mes soucis. Peut-être que vous dites, non, tu étais pasteur. Hein, un pasteur, ils sont capables de faire ça? Non, c'est pas le même que ça marche. Les gens pensent souvent que ça se passe mieux pour les pasteurs. Eh bien, non. C'est un apprentissage. C'est un entretien qu'on doit faire avec le Seigneur constamment. J'ai passé des mois et des mois à pleurer, à faire des crises d'angoisse. Je n'étais pas capable de trouver le repos que mon âme avait besoin parce que je ne savais pas comment faire. J'étais complètement perdu. J'avais perdu mes repères spirituels. Vous savez, c'est facile de dire à quelqu'un, ben écoute, repose-toi en Jésus. Tony, repose-toi en Jésus, là, décharge-toi sur lui de tous tes soucis, puis toi, ça va bien aller. Facile à dire. Hein? Mais quand l'amertume, l'injustice, la peine, la rage nous dévorent en dedans, quand le désespoir nous déchire l'âme, puis que la seule chose qu'on est réellement capable de faire, c'est de pleurer. Mais la notion du repos à Jésus, là, n'est pas si facile que ça à saisir. Moi, en tout cas, je ne la saisissais pas. Ce n'est pas Jésus qui manquait sa promesse. Jésus ne manque pas sa promesse. Et moi, je n'étais pas capable de la saisir, la promesse, de me l'appliquer à ma propre vie. En partie, oui, mais pas comme j'aurais voulu. Et j'aurais aimé que quelqu'un soit là pour m'aider à le faire. Mais j'étais tout seul. J'ai demandé de l'aide, mais... Les gens à qui j'ai demandé de l'aide, on ne voulait pas, pour toutes sortes de raisons. Mais rassurez-vous, ça va aujourd'hui. Je m'en suis sorti par la grâce de Dieu, puis c'est une bonne chose. Vous savez, La parole dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et Dieu avait un plan. Dieu ne m'a jamais laissé tomber. Même si j'en avais l'impression parfois. C'est que Dieu avait un plan, puis il me l'a révélé en temps et lieu. Vous savez, c'est comme ça parfois dans la vie chrétienne. Suite à ça, à cette épreuve-là, Nathalie et moi, on a constaté que beaucoup de gens dans le ministère, des pasteurs, des anciens, des gens impliqués à tous les niveaux, vivent des situations comme ça. Beaucoup de pasteurs souffrent en secret et en silence. J'en ai rencontré plusieurs. Depuis, on dirait que le Seigneur m'en a montré beaucoup. Quand ça arrive, les pasteurs sont impuissants devant la situation, puis les croyants aussi. Premièrement, c'est rare qu'un pasteur ou un ancien va parler à son assemblée de comment il se vit quand il vit comme ça, parce que on ne sait pas qu'est-ce que ça peut faire. Puis de toute façon, ça rend mal à l'aise. Les gens ne savent pas quoi faire avec un pasteur qui souffre. Ce n'est pas un reproche, là. C'est un constat. Et il y a très peu de ressources pour aider les pasteurs. Les pasteurs aident beaucoup de gens, il y a très peu de ressources pour les aider, eux, quand ils vont vraiment mal. Et c'est ce qui nous a amené, Nathalie et moi, après des années de prière et de recherche de la volonté de Dieu, à démarrer ce ministère que je vais vous parler ce matin. On a fait éprouver ce projet-là par des gens, on a mis des trois ondes devant l'Éternel afin de lui demander de répondre. Ça a pris des années, mais le Seigneur nous a fidèlement répondu. Alors, on a mis sur pied l'auberge, le repos du berger, qui a pour but, c'est notre slogan, le repos, le ressourcement et la restauration des pasteurs du Québec et de leurs épouses, évidemment, qui vivent ce genre de situation. Les épouses sont importantes aussi parce que, avec ce que j'ai vécu, si je suis encore dans le ministère aujourd'hui, c'est parce que Dieu m'a gardé, évidemment, mais Dieu m'a gardé principalement en se servant de Nathalie, mon épouse, qui a toujours été là à mes côtés pour prier avec moi, pour pleurer avec moi, mais aussi pour me réconforter et pour me rappeler sans cesse les promesses de Dieu. Nathalie, quand je pleurais, puis quand je faisais mes crises d'angoisse, puis quand j'étais totalement découragé, elle pleurait avec moi, elle me disait, « Tony, Dieu est bon. Dieu est fidèle. Il faut saisir ses promesses. » Elle était là pour moi. Elle a été forte pour me soutenir dans ma faiblesse. En quelque sorte, elle a été le point d'ancrage que Dieu s'est servi pour me garder. Et je ne dis pas ça pour glorifier Nathalie, ce n'est pas le but. Mais pour remercier le Seigneur pour la femme de Dieu qu'il a mis à mes côtés, mais aussi pour démontrer que Nathalie a souffert aussi. Comme les femmes de pasteurs souffrent quand leur mari souffre. Comme chacun d'entre nous, on souffre quand notre conjoint souffre. Alors oui, on veut prendre soin des pasteurs, mais on veut prendre soin de leurs épouses aussi. Et parce que même les enfants, parfois, sont impactés dans tout ça. Alors, il y a de la place à l'aide. Alors, nous, à l'auberge, on veut prendre soin des pasteurs et de leurs épouses. Vous savez, nos épreuves et nos difficultés, nos souffrances sont permises de Dieu. Il n'y a jamais rien qui échappe au Seigneur. Pas comme si le Seigneur n'était pas au courant, comme s'il ne le voyait pas, comme s'il l'a échappé. Non, non, le Seigneur est au courant de toutes choses, puis il permet la souffrance. Mais vous savez, la souffrance, il faut savoir quoi en faire. Puis ça aussi, c'est pas évident. Je dis ça parce que si on ne veut pas avoir souffert pour rien, il faut être capable de les remettre au Seigneur et dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Qu'est-ce que tu veux faire avec mon épreuve? Alors, nos souffrances ne doivent pas être perdues. On doit savoir les remettre à Dieu et découvrir ce qu'il veut en faire. On croit donc, Nathalie et moi, que Dieu nous a fait passer par cette période sombre-là, très éprouvante, parce qu'il avait un plan particulier et un appel particulier pour nous, c'est celui de l'auberge. Et Dieu s'est servi de ça pour nous former, pour nous qualifier à quelque chose, à ce nouveau ministère auquel il nous appelait. Nathalie et moi, on n'est pas des thérapeutes. On n'est pas des counselors professionnels non plus. Et on n'a pas la prétention d'avoir une recette miracle ou d'être meilleur que qui que soit. C'est pas du tout ça. Mais on a beaucoup souffert et on croit que Dieu veut servir de cette souffrance-là pour nous former et nous qualifier afin d'aider d'autres couples pastoraux qui vivent de grosses épreuves et qui ont besoin d'être accompagnés. On veut être là pour eux. On ne veut pas qu'ils se sentent abandonnés. Il y a beaucoup de pasteurs qui délaissent le ministère pastoral parce qu'ils ne sont plus capables, tout simplement. Parce qu'ils sont brûlés, ils sont en dépression, ils sont écœurés. Ça devient trop difficile et souvent, ça, c'est caché. Mais nous, on veut, avec le ministère de l'auberge, contribuer à peut-être faire que quelques-uns ne se découragent pas au point de délaisser le ministère et faire des niaiseries peut-être pire encore. Alors, convaincus de notre appel, on a entamé en 2022, Nathalie et moi, dans un esprit de prière, d'humilité et de recherche de la volonté de Dieu, des démarches pour implanter ce ministère. En 2 Corinthiens 1, 3 et 4, la parole de Dieu nous dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. » Alors, Nathalie et moi, on est convaincus que Dieu a permis tout ça parce qu'il voulait nous utiliser ensuite pour aider d'autres qui passent par la même épreuve. Et c'est ce qu'on veut faire avec le ministère de l'auberge. Après nous-mêmes avoir été consolés et restaurés, on veut contribuer à le faire avec d'autres couples pastoraux. Lisons maintenant le texte qu'on va regarder ce matin dans Marc 6. On va lire les versets 30 à 32. Les apôtres s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit, « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup d'allants et de venants, et ils n'avaient même pas le temps de manger. » Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. On va voir selon ce texte-là, quelles sont les étapes à suivre pour se reposer dans le Seigneur. Et ça, c'est valable pour chacun de nous, frères et sœurs. Chacun de nous, on a besoin d'apprendre ou de réapprendre ou de se maintenir dans le repos de Dieu. Et ça, ça se fait tout seul. Donc, le premier point qu'on va voir ce matin, c'est que les disciples sont retournés auprès du Seigneur. Le contexte de ce qui se passe là remonte au début du chapitre, au verset 7 à 13, où les disciples avaient été envoyés en mission par Jésus, et là, ils reviennent. Je ne sais pas combien de temps ça a duré, quelques semaines, quelques mois, je ne sais pas. La parole ne dit pas. Mais après un certain temps en mission, ils reviennent auprès du Seigneur, et au verset 30, les apôtres s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Là, j'ai une question pour vous. Répondez pas, mais soyez honnête envers vous-même. Ça fait combien de temps que vous ne vous êtes pas arrêté pour aller dans la présence de Dieu et passer un temps de qualité avec lui? Quand je parle d'un temps de qualité, je parle d'un temps de vraie communion avec Jésus où vous ne faites pas que lui demander des requêtes. Ça veut dire simplement un temps d'arrêt où on prend pour se concentrer sur la personne du Seigneur, sur ses attributs, sur qui il est lui-même. Juste le fait d'apprécier d'être dans le Seigneur avec lui, d'être dans sa présence, de lui raconter tout ce qui se passe dans notre vie, de bon, de moins bon, mais aussi de prendre le temps d'écouter le Seigneur. Vous savez, on a le réflexe, c'est correct de le faire. Hein? On demande au Seigneur. Mais est-ce qu'on écoute assez ce que le Seigneur a à nous dire? Tu sais, des fois, on pourrait dire, « Oui, mais Seigneur, j'ai l'impression que tu n'écoutes pas ce que je te dis. » Le Seigneur pourrait nous dire, « C'est drôle, j'ai la même impression que toi. » Le Seigneur, des fois, nous parle, mais on n'est peut-être pas assez attentif. Moi, à l'époque, je n'arrivais pas à faire ça. À me retirer avec Jésus, puis juste à être bien dans sa présence, puis à passer du temps avec lui, comme avec une personne chère, un être aimé. J'avais bien de la misère à faire ça parce que les seules choses sur quoi j'étais capable de me concentrer, c'était ma rage, mon amertume, mon désespoir, ma souffrance. Évidemment, je lisais la Bible et je priais, mais c'était plus un réflexe, c'était quelque chose d'automatique, parce que mon âme ne se ressourçait pas en Jésus. Je n'étais plus capable de prendre plaisir en lui. Alors, je me suis épuisé spirituellement et je le suis resté pendant plusieurs années. Chez moi, au printemps, j'ai installé des lumières solaires dans ma cour. Vous comprenez le principe des lumières solaires? Elles dépendent de la lumière du jour pour éclairer. Alors, pendant toute la journée, ces lumières-là emmagasinent l'énergie du soleil. Et quand l'obscurité arrive, quand le jour descend, bien là, elles commencent à briller tranquillement. Et là, elles brillent dans la nuit. Mais elles ne brillent pas toute la nuit. En tout cas, pas les miennes. Je me suis levé à un moment donné pendant la nuit, puis je regardais dehors, puis elles étaient éteintes. Un petit peu avant l'aube, un petit peu avant le matin. Elles avaient totalement épuisé leur énergie. Mais quand le jour s'est levé, elles ont recommencé à se charger. Et là, le soir, elles ont pu recommencer à briller. Et le cycle se répète jour après jour, jour après jour. Et je dis ça parce que je trouve que ces lumières-là représentent bien le même besoin qu'on a de renouveler quotidiennement nos forces auprès de Jésus. Parce que si on ne le fait pas, quand nos forces vont être épuisées, c'est là qu'on va perdre de vue la fidélité du Seigneur et l'espoir qu'on a en lui. On ne sera plus capable de briller pour lui quand la vie va s'obscurcir à cause de l'obscurité. Vous savez, dans un temps de grande angoisse, le prophète Jérémie a écrit ceci. « Voici ce que je veux repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. » Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Le prophète Jérémie avait un ministère très difficile. Il a œuvré pendant peut-être une quarantaine d'années et personne ne l'écoutait. J'ai la misère à voir un pasteur, un ancien, prêcher pendant 40 ans dans son assemblée, mais personne qui veut écouter ce qu'il a à dire. Ça doit être assez décourageant, ça. Mais lui avait un ministère particulier, c'est à ça que Dieu l'avait appelé. Et même, Dieu lui avait révélé au début de son ministère, il dit, « Jérémie, je t'appelle à prêcher, mais personne qui va t'écouter. Puis, watch-toi bien, parce qu'ils vont même essayer de te tuer. » Il me semble que moi, j'aurais dit, oh, « Seigneur, sais-tu, je pense que je vais donner mon chiffre à quelqu'un d'autre. » Mais Jérémie a été fidèle à son appel. Il a fait les œuvres que le Seigneur avait préparées pour lui, même si son ministère était très difficile. Mais il a pleuré. Il a beaucoup pleuré. On parle des Jérémiades, des fois. Hein? Ben, c'est de là que ça vient. Les lamentations de Jérémie. Et malgré ça, Jérémie a su renouveler ses forces en Dieu quotidiennement et garder espoir en Dieu. Il dit, « Oh, que ta fidélité est grande! » Vous savez, quand on est dans l'épreuve, ça peut être un peu plus dur qu'à l'habitude de sortir la fidélité de Dieu. Pourtant, Jérémie, c'est ça qu'il tenait. Parce que chaque matin, quand il allait se réfugier dans la présence de son Dieu pour lui raconter ce qu'il vit, Jérémie trouvait tout ce qui lui permettait de renouveler ses forces pour affronter ce qui l'affligeait. Quand on va régulièrement dans la présence de Dieu, c'est là qu'on renouvelle nos forces. Alors, c'est primordial de le faire. Parce que c'est là, devant le Seigneur, quand on pleure, quand on gémit, quand on lui raconte tout ce qui se passe dans notre vie, puis qu'on apprend à l'écouter aussi. C'est là qu'on va trouver la consolation, le réconfort et les promesses qu'on a besoin pour recharger nos batteries et continuer à briller pour le Seigneur jour après jour, même quand la vie s'obscurcit à cause de l'épreuve. Trop souvent, on pense que nous, on n'en a pas besoin et on n'en a pas le goût, mais, vous savez, Jésus lui-même se retirait régulièrement dans la présence du Père pour passer du temps de qualité avec lui. Et Jésus voulait que ses disciples apprennent à le faire. Mais Jésus voulait que ses disciples se retirent avec lui. Donc, pour apprendre à se reposer dans le Seigneur, il faut premièrement aller vers le Seigneur et ensuite se retirer avec le Seigneur. Relisons le verset 31. Jésus leur dit, « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. car il y avait beaucoup d'allant et de venant, et ils n'avaient même pas le temps de manger. J'aimerais faire ressortir trois points du verset 31. Le premier, c'est « Venez à l'écart ». Les disciples reviennent, comme on a vu, de mission. Alors là, ils doivent se reposer, physiquement bien sûr, parce que tout ça se faisait à pied, hein? Sous le soleil torride du pays là-bas. Alors, ils ont besoin de se reposer physiquement, parce que l'activité a été intense, sans aucun doute, mais ils doivent aussi apprendre à se renouveler, à renouveler leur force spirituelle avec le Seigneur et dans le Seigneur. Comme j'ai dit tantôt, entre vous et moi, là, l'expression « se reposer dans le Seigneur », moi je trouve que ça a un petit côté mystique, mystérieux. Parce que si on est tous capables de le dire, honnêtement, ça peut être difficile à saisir. Ça veut dire quoi, se reposer dans le Seigneur? Ça a un petit quelque chose de mystérieux. Et c'est pas toujours évident à comprendre, à saisir et même à appliquer. Alors, vous savez, je pense qu'il faut apprendre, quand on ressent le besoin, parce que ça, le besoin, on le ressent, de se reposer en Dieu. Mais je pense qu'il faut apprendre, premièrement, à ce temps-là, à dire, « Seigneur, j'ai besoin que tu me fasses du bien. Je peux-tu aller faire un tour chez vous aujourd'hui, puis te laisser prendre soin de moi? » Je pense que c'est l'attitude de départ qu'on devrait avoir pour apprendre à se reposer en lui. « Seigneur, fais-moi du bien. Permets-moi d'aller faire un tour chez vous, puis prends soin de moi. » Et je crois que c'est exactement ce que Jésus nous dit de faire ici. Au verset 31, remarquez que Jésus ne dit pas « Hey les gars, good job, vous arrivez de mission, c'est intense, je suis fier de vous autres gangs, fait que allez vous reposer, là, vous trois, allez à la pêche, les autres, allez dans vos familles, puis on se revoit dans une semaine. » C'est pas ça que Jésus a fait. Jésus n'a pas dit « Allez vous reposer », il a dit « Venez vous reposer ». C'est ça qui est écrit. Venez vous reposer. Jésus les invite à se reposer avec lui. Et c'est ce qu'on veut faire à l'auberge. On veut être un endroit propice où les pasteurs et leurs épouses vont pouvoir venir et reconnecter avec Dieu dans un endroit calme, dans un endroit à l'écart. Comme Jésus leur dit au verset 31, venez à l'écart et reposez-vous un peu. Puis on veut être là pour les accompagner. Pas pour leur dire quoi faire, mais pour les accompagner, pour prier avec eux, pour les encourager, pour pleurer avec eux, pour écouter ce qu'ils ont à dire, puis leur rappeler les promesses de Dieu et la fidélité de Dieu. Le Seigneur va faire le reste. Vous savez, pour vraiment se ressourcer spirituellement, ça prend un endroit où on ne sera pas dérangé et où on va pouvoir, pour un temps, mettre les préoccupations quotidiennes de la vie de côté pour se concentrer sur le Seigneur. Au 18e siècle, en Angleterre, vivait une femme du nom de Susanna Wesley. Je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent Susanna Wesley. C'était une femme de Dieu qui, elle, savait comment se reposer dans le Seigneur. Malgré le fait qu'elle a eu 19 enfants, Susanna Wesley passait du temps chaque jour de qualité avec son Dieu, malgré ses occupations et la fatigue que sa maisonnée lui apportait. Susanna Wesley ne pouvait pas partir et laisser sa petite marmaille toute seule. Là. Il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas de gardienne, il n'y avait pas de Facebook, il n'y avait pas rien à ce temps-là. Elle ne pouvait pas partir comme ça et laisser ses enfants tout seuls. Alors, elle a trouvé un moyen de quand même trouver du temps à l'écart avec Jésus au milieu de sa marmaille. Donc, elle s'assoyait au milieu de sa cuisine sur une chaise et elle mettait son tablier sur sa tête. Et les enfants savaient que quand maman avait son tablier sur la tête, on la dérange pas, elle passe du temps avec Jésus. Ses enfants savaient ça et cette femme a eu un grand impact spirituel sur eux parce que deux d'entre eux, excusez, ma tablette vient de planter. Nathalie, amène mon ordi, s'il te plaît. Ma tablette, elle plante tout le temps quand je prêche. Juste quand je prêche. Tout le temps quand je prêche. Jamais en dehors de ça. Susanna Wesley a eu un impact spirituel grand sur ses enfants parce qu'elle savait se reposer dans le Seigneur. Au point que deux de ses fils, John Wesley et Charles Wesley, figurent parmi les plus grands évangélistes du 18e siècle. Donc, parfois, on pense que on n'a pas d'impact sur notre entourage, mais oui, on en a un. Et se reposer dans le Seigneur, ça en a un sur nous, mais sur nos enfants aussi. Juste le temps d'ouvrir mon ordi, ça va être correct. Ça, les petits gars vont arrêter d'une tablette, mais qu'on part. Non. Mais ce que je veux relever, c'est que pour se reposer dans le Seigneur, il faut apprendre à se retirer à l'écart avec lui, peu importe la façon et l'endroit. Et le deuxième point que je voudrais faire ressortir du verset 31, c'est les allants et venants. La raison pour laquelle Jésus voulait que ses disciples se retirent à l'écart, le texte nous dit que ce sont à cause des allants et venants. C'est-à-dire, tous ces gens qui étaient là, qui tournaient autour d'eux, qui sans cesse voulaient voir des miracles, qui voulaient entendre le Seigneur prêcher, qui voulaient manger du pain, qui voulaient être guéris de maladies ou de toutes sortes de choses. Et l'activité était intense, là. Et c'est à cause d'eux qui devait se retirer à l'écart. C'est ce que nous dit le verset 31. Jésus leur dit, « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu, car il y a beaucoup d'allants et de venants. » Le car, c'est ce qu'on appelle ici un connecteur logique dans le texte. Donc, il fait une liaison entre ce qui vient d'être dit et ce qui suit. Donc, si Jésus leur a dit d'aller à l'écart, c'est à cause des allants et venants, car il y avait beaucoup d'allants et de venants. Vous savez, pour nous, c'est pareil. Les circonstances sont différentes, mais il va toujours y avoir quelque chose à faire dans nos vies. Des échéanciers à respecter, des courriels à répondre, des examens à préparer, des bains à donner aux enfants, du temps à passer sur les réseaux sociaux, ou même des mauvais sentiments à entretenir. C'était mon cas. Vous savez, la tristesse, l'amertume, l'injustice, la frustration et beaucoup d'autres choses encore sont des allants et venants qui nous empêchent de passer du temps de qualité avec Jésus. Et nos allants et venants, quels qu'ils soient, sont exigeants, ils sont insistants, ils sont insatiables et envahissants. Ils sont en quelque sorte des idoles. Des idoles qui prennent place au milieu de nos vies et sur lesquels on sacrifie sur leurs autels le meilleur de notre temps, le meilleur de nos pensées, le meilleur de notre énergie. Alors, on doit apprendre à se retirer d'eux pour aller vers le Seigneur, aller avec Jésus. Il va toujours, vous savez, y avoir des raisons de ne pas lire la Bible. Il va toujours y avoir des raisons de ne pas venir à l'Église. Il va toujours y avoir des raisons de ne pas participer aux activités de l'Église locale. Il va toujours avoir des raisons de ne pas passer du temps de qualité avec notre Dieu. Mais en réalité, là, soyons honnêtes. On va se dire, hein, c'est pas une question de priorité. C'est pas une question de temps, c'est une question de priorité. Parce qu'on trouve toujours le temps pour faire ce qu'on veut dans la vie. Alors, si on n'a pas le temps de lire notre Bible, si on n'a pas le temps de prier, de passer du temps avec le Seigneur, c'est qu'on priorise d'autres choses. Parfois, pour y arriver, il faut juste apprendre à se mettre un tablier sur la tête. Et Jésus, vous savez, il n'a pas guéri tous les malades. Il n'a pas chassé tous les démons. Il n'a pas donné à manger à tout le monde. Il n'a pas ressuscité tous les morts. mais il a toujours priorisé du temps à passer dans la présence du Père. Ça, c'était important pour lui. Et même à Gethsémané, quand il était angoissé au point de transpirer du sang parce qu'il savait ce qui l'attendait, il voyait la croix qui arrivait, il a passé du temps dans la présence de Dieu pour être fortifié et être capable d'aller jusqu'au bout. Et heureusement pour nous qu'il a fait ça. Heureusement pour nous. À l'auberge, on veut offrir un endroit où les pasteurs vont pouvoir se retirer à l'écart. Venir passer du temps de qualité avec Jésus et on va être là pour les aider à le faire. Dans un endroit calme, en pleine nature. Parce que c'est important. Le troisième point que j'aimerais faire ressortir du verset 31, c'est de prendre le temps de manger. Le texte nous dit qu'il n'avait même pas le temps de manger. Bon, quand on ne mange pas physiquement, ou qu'on mange juste du fast-food ou du junk food, on tombe malade. Vous savez, spirituellement, c'est pareil. Si on ne se nourrit pas comme il faut, si on ne passe pas du temps de qualité avec Jésus, si on ne passe pas un temps à lire, à méditer la parole de Dieu, puis à se laisser émerveiller par le Seigneur, spirituellement, on va faiblir. On va tomber malade. Notre âme a besoin de ça. C'est Jésus qui disait en Matthieu 4:4, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Et pendant longtemps, ça a été mon cas. À cause de mon épreuve, je ne me nourrissais plus de la parole de Dieu. Pas adéquatement. J'en avais plus le goût. Alors j'ai dépéri. Et vous savez, à l'auberge, on veut prendre du temps avec les pasteurs et leurs épouses et les accompagner là-dedans, en priant avec eux, en parlant de notre expérience avec eux. Pas pour les sermonner, pas pour leur dire quoi faire, ni même leur donner des conseils, mais simplement être là, les aider à connecter avec Dieu, puis le fait qu'ils sentent qu'on comprend ce qu'ils vivent parce qu'on l'a vécu. Et les aider à reconnecter avec Dieu afin qu'ils retrouvent le goût de se nourrir de la parole de Dieu, afin que leur âme soit restaurée. Relisons le verset 32, Marc 6, 32. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Les disciples ont donc dû prendre une barque, c'est-à-dire un moyen concret pour y arriver. Et comme on a vu, ce n'est pas toujours facile de quitter nos allants et venants pour se retirer à l'écart. Parce que nos allants et venants, là, ils vont toujours essayer de nous rattraper. Regardez le verset 33. Beaucoup de gens les virent s'en aller et les reconnurent. Et de toutes les villes, on accourut à pied et on les devança au lieu où ils se rendaient. Nos allants et venants sont comme ça. On a beau essayer de se retirer à l'écart, prendre des vacances, aller au camp, faire quelque chose. Dans notre tête, ça tourne, nos allants et venants sont là. Hey, je suis là, moi aussi, là. Ils vont toujours essayer de nous ramener. Oui, mais hey, oublie pas ça, là. Hey, oublie pas que t'as dit telle affaire. Il faut que tu fasses ça, là. Nos allants et venants cherchent toujours à nous rattraper. C'est pas évident, ça. C'est pas évident de les quitter. Alors, il faut trouver un moyen. Il faut prendre une barque, un moyen concret pour y arriver. Et ce qu'on veut, c'est que l'auberge, le repos du berger, soit une barque que les pasteurs pourront prendre pour venir à l'écart, se retirer et vraiment laisser leur environnement souvent toxique de côté ou leurs préoccupations, tout ce qui les submerge. On veut les aider à dire, écoute, ici, là, tu laisses tout ça à l'extérieur. Ici, tu prends le temps qu'il faut pour te ressourcer avec Jésus, en Jésus. Inquiète-toi pas, tes problèmes vont être là, mais tu retournes. Pour l'instant, mets-les de côté. Laisse-le pas te devancer jusqu'ici. Un ministère comme l'auberge, ça n'existe pas au Québec. On a cherché pendant des années, il n'y en a pas. Il y en a en France, il y en a aux États-Unis, il y en a au Canada anglais, mais il n'y en a pas au Québec. Bien sûr, il y a des ministères qui existent, comme Cœur à cœur, par exemple, ou la Fondation du counseling biblique, et il y a d'autres ministères. Et merci Seigneur pour tous ces ministères-là qui font une différence et qui ont leur place. Mais à l'auberge, on ne veut pas compétitionner ces ministères-là parce que ce qu'on fait, ce n'est pas ce qu'eux font. Nous, on ne fait pas de thérapie de couple. On ne fait pas de counseling biblique. Ce que l'on fait, ça s'appelle du debriefing. Je vais vous l'expliquer rapidement. On veut être des premiers intervenants pour aider les couples pastoraux qui pensent à quitter le ministère ou qui sont en transition ou qui ont besoin d'accompagnement à cause d'une grosse épreuve ou qui ont besoin de se poser dans un endroit calme pour retrouver leur repère. Ben, on veut les aider à faire ça. On est des premiers intervenants. Vous savez, quelqu'un qui est en train de se noyer dans l'eau, nous on est sur la plage, on saute à l'eau, on le sort, on lui fait la respiration artificielle. Quand il a repris son souffle, on appelle l'ambulance. Et il s'en va à l'hôpital. Ou comme l'infirmière au triage à l'urgence. Elle prend nos signes vitaux, elle nous demande qu'est-ce qui se passe, elle prend un rapport, ensuite elle nous envoie au médecin. Alors nous, on ne fait pas de thérapie. On ne fait pas de counseling. On n'est pas des psychologues, on n'est pas des thérapeutes et ce n'est pas notre but. Ce qu'on veut, c'est simplement aider les gens parce que nous, ça nous a cruellement manqué. Quelqu'un qui me dit, OK, Tony, je vais t'aider à voir clair dans ce qui se passe. C'est ça qu'on veut faire. Parce que après la semaine où les gens vont passer à l'auberge et qu'ils auront eu du debriefing, je vais vous expliquer ce que c'est dans quelques instants, ben, on va dire, écoute, là, on t'a aidé à reprendre ton souffle, à retrouver tes repères, du moins en partie, à retrouver tes esprits, à te poser un peu. Là, tu es plus calme, là, tu sais un peu plus ce qui se passe. Maintenant, avec ce qu'on a fait, le travail qu'on a fait ensemble, on va te diriger vers quelqu'un qui va pouvoir t'aider. Peut-être que ça va être un médecin. Peut-être que ça va être le counseling biblique. Peut-être que ça va être un psychologue, peut-être que ça va être cœur à cœur, peut-être que ça va être d'autres ressources. Mais nous, on veut juste les diriger au bon endroit pour les aider. Nous, là, on était complètement perdus. On aurait aimé que quelqu'un nous accompagne. Et c'est ça qu'on veut faire à l'auberge. On veut leur offrir un environnement adéquat où ils vont pouvoir sortir de leur quotidien et reconnecter avec Dieu. Parce qu'à partir de là, après ça, on recommence à voir clair. Vous savez, quand on est dans le brouillard, là, on ne sait pas où se diriger. On ne sait pas vers qui aller. Puis là, c'est là que les choses peuvent souvent mal tourner. Alors, à l'auberge, on veut leur offrir un séjour qui va favoriser le repos, le ressourcement et la restauration dont ils ont besoin. Et ce que la forme de relation d'aide qu'on veut faire, ça s'appelle du debriefing. Le debriefing a été développé durant les deux grandes guerres. Où des soldats revenaient de mission, ils étaient en situation post-traumatique, et le debriefing leur permettait de faire le point sur la situation et de les aider à retrouver leurs esprits. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup de soldats qui ont fait du debriefing ont été capables de retourner sur les champs de mission et même d'être efficaces par la suite. Contrairement à ceux qui n'ont pas eu de debriefing, qui la plupart ont passé le reste de leur vie en post-traumatique et gravement troublé. Ce n'est pas une solution miracle, mais ça peut aider des gens. Et ce qu'on veut, c'est d'aider les gens que ça pourra aider. Par la suite, le debriefing a été développé dans les milieux chrétiens en Europe pour aider les nombreux pasteurs qui, chaque année, abandonnent le ministère parce qu'ils sont épuisés, découragés ou complètement écœurés. Selon des statistiques que j'ai lues il n'y a pas si longtemps, aux États-Unis, à l'heure actuelle, il y a plus de 1500 pasteurs par semaine qui abandonnent le ministère. 1500 par semaine. Oui, il y en a d'autres qui rentrent dans le processus. Je n'ai pas les chiffres pour le Québec. On travaille à en trouver présentement. Mais il y en a beaucoup, beaucoup qui délaissent le ministère. J'ai eu connaissance de quelques-uns qui se sont même enlevés la vie. Et ça arrive. Ça arrive parce que... Et ça m'est arrivé. À l'époque où on a vécu notre grosse épreuve, un soir, Nathalie et moi, on était dans le lit, puis on priait, puis on pleurait, puis j'en avais assez. J'en avais marre. Et à voix haute, j'ai dit cette prière. Seigneur, enlève-moi la vie, je suis plus capable. Viens me chercher, je suppliais le Seigneur pour qu'il vienne me chercher. Je n'aurais pas passé à l'acte par moi-même, mais ça aurait été tellement de délivrance qu'il vient de faire. Mais le Seigneur avait d'autres plans. Au lieu de m'enlever la vie, le Seigneur m'a relevé. Il m'a fait comprendre que tout ça servait à quelque chose et qu'il allait utiliser ça pour quelque chose. Mais vous savez, on n'a pas tous le même appel, mais nous, ce qu'on veut, c'est d'aider les gens qui passent par là à voir clair et à ne pas faire de conneries. Le debriefing, on vient de le voir un peu en Matthieu 6, 30, 32, Jésus en a fait avec ses disciples, mais Il y a un autre exemple, il y en a plusieurs autres, mais un autre exemple que j'aimerais relever, qu'on voit dans la Bible, parce que ça ne sort pas de nulle part, je veux dire, le principe, il est biblique. Les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs, en Luc 24, 13 à 17. Le texte nous dit que les gars étaient tristes. Et là, Jésus va à leur rencontre et il leur demande, « De quoi vous entretenez-vous en marchant? » Là, il les fait parler de ce qui les rend tristes, puis les gars expriment leur déception profonde. Ils disent, « Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. » Jésus les fait parler de ce qui les rend tristes. Il leur parle de tout ça, parce qu'il voit qu'ils sont tristes et désespérés. Et là, le Seigneur prend le temps avec eux qu'il faut. Et Jésus leur fait retrouver leur repère spirituel. Au verset 32 de Luc 24, il est écrit, « Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? » Se levant à leur même, ils retournèrent à Jérusalem. Il n'était plus question pour les disciples sur la route d'Emmaüs de s'en aller vers Emmaüs, d'abandonner les 3 années peut-être qu'ils avaient suivi le Seigneur, ou, bon, on ne sait pas, mais ils étaient désillusionnés, ils étaient tristes, ils pensaient que tout était terminé. Mais là, Jésus a dit, « Non, les gars, vous ne retournez pas à votre ancienne vie, là. J'ai d'autres plans pour vous autres. » Et là, Jésus s'est manifesté à eux. Et le feu a repris. Ils sont retournés à Jérusalem, encouragés. Et c'est ça qu'on veut faire à l'auberge. Aider les gens à ne pas abandonner le ministère, à retrouver leur confiance dans le Seigneur, puis à continuer à servir le Seigneur. L'auberge, c'est un organisme sans but lucratif. Et depuis le mois de novembre l'année passée, on peut maintenant émettre des reçus d'impôts. C'était des démarches. Quand même, le Seigneur a mis sa main parce que ça fait 3 ans qu'on a entamé les démarches. Et en 1 an et demi, on a mis le ministère sur pied. Puis normalement, c'est quelque chose qui aurait dû prendre 3, 4, 5, 6 ans, 7 ans. Juste pour l'accréditation, pour les reçus d'impôts, on nous avait dit que ça prendrait 2 à 3 ans. Quelqu'un nous avait dit que ça y avait coûté 20 000 $ sur l'organisation. Ben nous, ça a pris 10 mois et ça a coûté 0. Les gens du gouvernement ont été avec nous là, vraiment extraordinaires. Puis ils ont dit, écoutez, plus que vous allez faire la promotion, plus que vous allez démontrer que vous faites la promotion de la religion au Québec, plus qu'on va, vous avez des chances que ça vous soit accordé. Jamais j'aurais pensé de faire dire ça par quelqu'un du gouvernement. Puis, la dame, elle nous écrivait, puis elle disait, « Non, c'est pas assez, là. Beurrez plus épais que ça, là. » Puis là, même, elle nous disait, « Voici, là, je vais vous écrire un paragraphe, mettez ça dans la case, puis envoyez ça, puis on va vous l'accorder. » Puis là, on disait, « Bien, on veut prier avec les gens, on veut leur parler de Dieu, on veut leur annoncer l'Évangile, on veut que les gens... » Et c'est ça qui a fait qu'on l'a eu. Si Dieu n'était pas derrière ça, là, ça n'aurait pas marché. Clairement. On remercie le Seigneur pour ça. On est sur le point d'acquérir un site en pleine nature pour s'implanter physiquement. Depuis vendredi, on a 30 jours pour se qualifier à la caisse. Donc, depuis 1 an et demi, on ramasse des fonds par des églises, par des gens qui donnent beaucoup de prières. Et là, on est sur le point d'acquérir un site, une terre de 42 hectares avec 2 petits lacs dessus où on va pouvoir construire et faire nos installations en Mauricie, près de la rivière Saint-Maurice. Donc, on a besoin de vos prières. On a besoin de vos prières pour ça. Et si le Seigneur vous met à cœur, bien, il y a une table en arrière. Je vous invite à aller voir la table. Là. Il y a des dépliants. Nathalie est là. Je vais être là aussi. On vous donne toute l'information nécessaire. On a besoin de financement. On a besoin de prières. Mais je veux vous dire une chose. On est souvent sollicité de tout bord, de tout côté. Ça rend un peu mal à l'aise, mais je veux dire, la parole dit « Faites connaître vos besoins ». Et si jamais vous avez à cœur de soutenir dans l'auberge, je veux préciser une chose. C'est que votre première responsabilité en tant que croyant, c'est de soutenir votre église locale. Alors, si vous aimeriez soutenir l'auberge, coupez rien sur ce que vous donnez déjà à votre église locale. C'est votre première responsabilité, je crois, devant le Seigneur. Si vous soutenez déjà une autre œuvre, que ce soit le Quai Jean-Libé, que ce soit des missionnaires, que ce soit peu importe, arrêtez pas pour nous. On n'a pas besoin de tirer sur notre bord de la couverte comme si le Seigneur était limité dans ses besoins. On ne veut pas enlever rien à personne. Mais si Dieu vous met à cœur quelque chose, bien là, c'est avec joie qu'on va recevoir. Puis on ne veut pas de pression sur personne, mais on fait connaître le besoin. Actuellement, on a 45 000 $ en caisse. On a besoin de 250 000 en dons ou en prêts ou en cautionnement pour la phase 1 du projet. Parce que la terre, elle coûte 150 000, puis on a besoin de 100 000 pour démarrer les infrastructures au printemps 2026. Et c'est par la foi qu'on avance. Et puis, on est confiant que le Seigneur va pouvoir. Donc, on fait connaître les besoins. Vous savez, l'an dernier, j'ai parlé, je termine avec ça. L'an dernier, j'ai parlé avec quelqu'un d'un organisme chrétien qui ont de l'argent et qui cherche des causes à qui donner. C'est un organisme américain. Et là, je lui ai présenté le projet. Il m'écoutait. Il dit, c'est intéressant, mais je vais te dire une chose. Il dit, si tu as besoin d'argent pour former des nouveaux pasteurs, on va t'en donner de l'argent. Si tu as besoin d'argent pour implanter une nouvelle église, on est là avec toi. Si même tu veux démarrer une école biblique, on va te soutenir. Mais si tu nous parles d'aider des pasteurs, des gens en place qui souffrent, ça n'intéresse personne. J'en ai eu pour 2 jours à être ébranlé, puis à pleurer devant le Seigneur. Puis le Seigneur m'a dit, Tony, c'est pas vrai ça, c'est un mensonge. Il dit, c'est pas vrai que ça n'intéresse personne. Il faut juste que tu trouves les bonnes personnes. Alors, on fait connaître le besoin. Vous êtes la 12e église dans laquelle on présente le projet. Et dans 2 églises, je suis déjà retourné une 2e fois pour une suite de messages, qui n'est pas le même du tout, mais qui va dans le même ordre d'idées. Et Dieu se manifeste. Et c'est une œuvre de foi. Donc, en terminant, vous avez aussi le site web repos-du-berger.org que vous pouvez aller visiter. Toutes les informations sont là. Il y a des méditations même que j'écris et que d'autres écrivent pour encourager les pasteurs à persévérer, mais aussi pour encourager les chrétiens à prendre soin de leurs pasteurs. Et on a la page Facebook Auberge le repos du berger. Et on a ce point GPS. C'est Nathalie qui a eu l'idée quand on cherchait un logo. Vous savez, quand on regarde sur Google Maps, là, le petit point GPS avec la maison, là, ben, il pointe quoi vers Marc 6:31, qui dit, venez à l'accord dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Ce point GPS-là, c'est notre point de départ et c'est notre point d'arrivée. Mm-hmm. Et c'est ça qui représente l'auberge. Donc, je vous invite à aller voir et prendre toute l'information. La vision du ministère de l'auberge, c'est le repos, le ressourcement et la restauration des pasteurs du Québec. Mais chacun d'entre nous, frères et sœurs, on en a besoin. Apprenons, qui que nous soyons, à se reposer dans le Seigneur. Parce que c'est tellement important. Puis ça fait toute la différence pour nos vies chrétiennes. Parce que c'est là, dans la présence de Jésus, qu'on va retrouver nos repères. Qu'on va être capable de s'encourager puis de recharger nos batteries quand ça ne va pas. C'est en ressortant les promesses de Dieu puis en se les appropriant pour soi-même qu'on va croire que la bonté de Dieu se renouvelle chaque matin. Puis ça, c'est tellement important. Notre Dieu, ce n'est pas un Dieu comme celui de Raël qui est à des millions d'années-lumière dans le cosmos. Dieu habite en nous, par son esprit. Dieu est avec nous. Il prend soin de nous. On est fils et filles du roi des rois. Alors, apprenons à se reposer en Jésus et donnons-lui toute la gloire qui vient avec ça. Prions. Seigneur Jésus, Seigneur notre Dieu, merci pour ce texte de ta parole qui nous montre l'importance d'apprendre à se reposer en toi et qui nous fait réaliser aussi que ce n'est pas toujours évident, mais que c'est possible. Alors, Seigneur, aide-nous à mettre ça en application pour chacune de nos vies. Et je vais te prier pour cette assemblée ici à Notre-Dame-du-Nord, merci de la bénir. Continue à la bénir puis à la faire croître. Et quand je parle de croissance, je ne parle pas juste numérique. Je parle surtout spirituellement, avec des bons bergers qui vont prendre soin d'eux. Puis interpelle les gens à prendre soin de leur berger, Seigneur. Parce que c'est ça que tu nous demandes dans ta parole. Et Seigneur, mets ta main sur le ministère de l'auberge. Continue à mettre ta main afin qu'on puisse accomplir notre but et voir se concrétiser ce beau projet-là parce que un pasteur qui tombe, ça fait que beaucoup de brebis se dispersent, mais souvent ils deviennent la proie de l'ennemi, puis on ne veut pas ça. Alors Seigneur, aide-nous à prendre soin des bergers que tu mets en place sur ton Église, par ta grâce, par ta direction, et c'est dans le nom de Jésus qu'on t'en prie. Amen.
Merci, Tony. Écoute, si vous me permettez, peut-être juste quelques minutes, s'il y aurait des questions pour Tony. Ça a été publié à la gracieuseté de publication chrétienne. Alors, vous pouvez en prendre, c'est un livre qui aborde le sujet du ministère pastoral. Alors, on les donne comme vendeur. Toutes les informations sont là. Si vous avez des questions, j'ai une fois à mon avis.